Voilà, bonjour à tous. Nous allons avoir la deuxième partie de la prédication que j'avais commencée il y a 15 jours et qui vous avait quelque peu frustré. Je le sais, mais comme promis, voici la suite. Alors je reviens un petit peu sur ce qu'il y a été dit pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, comme on le fait dans les séries, dans l'épisode précédent. Voilà. Nous avions donc commencé à entamer une série sur la petite épître de Tite, qui va nous prendre plusieurs dimanches, qui vont s'étaler sur plusieurs mois. C'est toujours intéressant de faire des séries car on étudie le texte vraiment dans ce contexte et on a les idées claires sur le texte qui a précédé ce qu'on étudie ensuite, ensuite et ensuite. Et donc si jamais vous n'avez lu de livre entier de la Bible, et ben, cette fois-ci, ce sera l'occasion de le faire. Celui-ci, en plus, étant relativement petit. Donc, nous nous penchons sur le premier chapitre avec un thème bien spécifique, le responsable d'Église. Pourquoi nous avions abordé cette thématique? Pourquoi j'ai souhaité nous engager dedans? C'est parce qu'il y a eu un changement pastoral, vous le savez, maintenant depuis plusieurs mois, et ce changement pastoral implique des changements de fonctionnement. Je ne fonctionne pas exactement comme Roger, nous avons quelques différences et donc c'était l'occasion pour moi de clarifier ma vision du fonctionnement de l'Église. C'est pour ça que nous faisons cette série sur Tite. D'abord pour avoir ce que dit la parole de Dieu sur ces sujets-là et ensuite pour comprendre ce que je souhaite insuffler, inspirer dans mon fonctionnement. Et donc c'était un objectif à la fois pour l'Église mais aussi pour les responsables de l'Église, ici les anciens, premièrement, parce que c'est de eux dont il est question, et ensuite, nous le ferons pour les diacres et les diaconesses, afin d'avoir une idée globale des choses. Donc, nous avions commencé à étudier l'épître de Tite en partant de trois caractéristiques, le contexte et l'exemple de l'apôtre Paul, car l'apôtre Paul nous en donne un exemple. Ensuite, ce que le responsable ne doit pas être, ce qu'il ne doit pas être dans un premier temps, et ensuite, nous allons voir ce qu'il doit être. Et donc, nous avions vu ensemble le contexte de l'épître, donc nous avions lu l'introduction à la lettre, parce que c'est une lettre que Paul écrit à Tite. Nous avions vu qui était Tite, nous avions vu que c'était un collaborateur de Paul qui l'avait beaucoup suivi, qui avait notamment beaucoup fait parler de lui à Corinthe. C'est lui qui avait été envoyé par Paul pour réunir de l'argent pour venir en aide à l'église de Jérusalem. Et il était retourné une seconde fois pour notamment apporter la deuxième épître aux Corinthiens, que tout le monde connaît, et aussi remettre un peu les choses au clair avec l'église de Corinthe qui remettait en doute l'apostolat et l'autorité de Paul. Donc Tite n'est pas du tout un inconnu, c'est un fidèle de l'apôtre Paul qui a été formé par lui et qui l'a accompagné pendant de nombreuses années. Ensuite, on a parlé de l'île de Crète qui se trouve en Grèce et je vous avais informé que cette île a assez mauvaise réputation. Les habitants aiment beaucoup la boisson, ils aiment se battre, ils aiment les querelles. Bon, ce sont des gens peu recommodables à tel point qu'il y avait un verbe qui existait, crétiser, qui signifiait tromper. Donc, quand on voulait tromper quelqu'un, on disait qu'on le crétise. Donc ça veut tout dire. Le tableau est donné, le contexte est donné. Crète n'a pas bonne réputation et ses églises non plus. Ce sont des églises inorganisées avec des enseignants qui viennent pour toucher de l'argent, qui enseigne n'importe quoi, qui crée des divisions non seulement dans l'Église, mais qui en crée aussi dans les familles. On va le voir parce que ça va avoir un impact dans la lettre que Paul écrit à Timothée. Donc les églises sont livrées à elles-mêmes, elles sont complètement inorganisées, et en plus ceux qui viennent y enseignent n'importe quoi. Autrement dit, il n'y a rien qui va. Tite est donc missionné par l'apôtre Paul pour remettre un peu de l'ordre dedans, et pour ce faire, Paul demande à Tite de nommer des anciens, des responsables dans l'Église. Et donc, hop, j'avance un peu. Je vais juste relire ce texte-là parce que c'est surtout celui-ci sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui. Tite, donc 1, versets 5 à 9. Alors, si vous le cherchez dans vos Bibles, elle n'est pas facile à trouver parce que c'est une toute petite épître. On va la trouver avant Hébreu, Jacques. Avant, il y a Philémon qui est toute petite aussi. Et puis, juste avant Philémon, il y a Tite. Ou sinon, dans l'autre sens, si vous trouvez un de Thessaloniciens ou un de Timothée, eh ben, c'est celle qui suit ces épîtres-là. C'est ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Voilà. Donc, Tite 1. Versets 5 à 9. Donc c'est Paul qui écrit à Tite. « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement sain et de réfuter les contradicteurs. » Donc, nous avions commencé à méditer ce texte-là. Nous nous étions penchés sur le terme ici employé pour les responsables. Il y en a deux, presbytéros ou épiscopos. Presbytéros, ça signifie « ancien » au pluriel. Et « épiscopos », ça signifie « surveillant » au pluriel. Mais nous savons que ces deux termes sont interchangeables. Tantôt, Paul utilise l'un, il utilise l'autre. En fait, ils sont synonymes. Ils signifient la même chose, un même rôle. Nous nous étions ensuite penchés sur qu'est-ce que ces notions impliquent, notamment quant à la question du pastorat, du ministère pastoral. Parce que nous, aujourd'hui, on fait la distinction. Il y a les anciens et il y a le pasteur. Et on estime que c'est un peu des choses différentes. Mais on voit que dans l'Écriture, cette distinction n'existe pas. Les anciens ou les surveillants, choisissez le terme que vous voulez, ont ce rôle-là. Donc nous avions vu pour cela Acte 20, verset 28, qui Paul parle encore et dit que c'est le rôle des anciens. Et Pierre dit dans sa première épître que le rôle de faire paître le troupeau, c'est ça un pasteur, revient aux anciens. Et donc, à partir de cette conception-là, nous en avions déduit que les anciens étaient tous les pasteurs de l'Église. Okay ? C'est là où nous nous étions arrêtés. Je ne reviens pas sur ça, on en a très largement parlé la dernière fois. Et donc, nous allons nous pencher cette fois-ci, maintenant qu'on a repris le train en marche, sur ce qu'un ancien ne doit pas être. Et donc là, ici, Paul dresse à Tite toute une liste de choses que l'ancien ne doit pas être. Et après, on va regarder ce qu'il doit être. Le premier qui est ressorti ici, c'est verset 7, « Il ne doit pas être imbu de lui-même ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Celui qui est imbu de lui-même, c'est celui qui est arrogant, qui est prétentieux. En fait, c'est un pendant de l'orgueil. C'est celui qui peut s'obstiner et ne pas admettre que ceux qui pensent autrement que lui puissent avoir raison. Il ne cède pas et il ne supporte pas la contradiction. Le risque étant qu'il peut prétexter de son autorité pour devenir un dictateur spirituel. Et ça peut sembler loin, mais il y a beaucoup d'églises en Île-de-France qui fonctionnent comme ça, hein, où le pasteur est un être tout-puissant, qui dirige de tout, à qui on ne peut absolument rien dire, et ne prends surtout pas le risque de te plaindre auprès de lui, car il pourrait te mettre dehors. Et ça, on en a peur. Au contraire, l'ancien ne doit pas être têtu, mais il doit s'adapter à ses frères et sœurs. Il doit écouter leurs suggestions ou leurs remarques et savoir revenir sur ses positions si, et le « si » là, il est très important, la parole de Dieu l'éclaire en ce sens. C'est-à-dire qu'il y a un tri qui se fait. Ce n'est pas parce qu'on dit « Ah, moi, j'aimerais ceci, j'aimerais cela » que c'est forcément ce qu'il doit faire. Le pasteur ou les anciens ne sont pas des hommes politiques. Non, c'est la parole de Dieu qui convainc. Et peut-être que les remarques peuvent être conformes à la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut savoir écouter. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire preuve d'humilité. D'humilité. D'ailleurs, travailler en collège avec quelqu'un qui est imbu de lui-même, ça peut vite rendre la tâche insupportable. C'est difficile, c'est pesant. Et donc, c'est un des premiers thèmes que l'apôtre Paul donne ici. Le deuxième, c'est que l'ancien ne doit pas être coléreux. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de la colère contre le péché, mais de cette promptitude à s'irriter contre les autres. Lorsqu'on reçoit des offenses, la tentation de s'emporter peut être bien présente, parce qu'on peut se sentir un peu blessé, remis en question, etc. Mais nous sommes plutôt ici invités à répondre. J'ai bien aimé cette expression dans un commentaire. Répondre dans un esprit de grâce, assaisonné de sel. Répondre dans un esprit de grâce. On doit faire grâce, comme le Seigneur a fait grâce, mais sans pour autant que notre parole perde son goût. Esprit de grâce assaisonné de sel. Et c'est ce que dit Jacques dans son épître. Que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est pour ça que parfois, on peut avoir certaines remarques qui nous sont faites et qu'on ne répond pas tout de suite. On prend le temps, on se pose. Et c'est souvent préférable. C'est dans les proverbes, tiens, j'y pense maintenant, je ne l'ai pas noté, mais il y a un proverbe qui dit que celui qui est sage, c'est celui qui est lent à répondre. Ce n'est pas celui qui répond tout de suite, sous la colère, sous le fait d'être blessé, en réaction, quoi. Non, il prend le temps, il pose, il évalue. Et parfois, ce temps, il conduit à changer d'idée. Ah oui, c'est vrai, ce que m'a dit le frère là, c'est intéressant, je vais faire plus attention. Troisième élément, c'est il ne doit pas être buveur et adonné au vin. Alors là, si vous vous souvenez du contexte de l'île de Crète, où je vous ai dit qu'il était très courant de s'adonner au vin, aux beuveries, et puis de finir en bagarre, et bien là, c'est évident que ces caractéristiques-là ressortent dans ce que l'ancien ne doit pas être, surtout en Crète. Alors, entendons-nous bien, l'Écriture n'interdit pas la consommation d'alcool. Le Seigneur Jésus, d'ailleurs, dans les noces de Cana, a changé l'eau en vin. Mais ici, ce qui est cité, c'est le danger d'en abuser et de mal se conduire. Pourquoi ? Parce que l'abus d'alcool ôte le sens et il peut rendre violent, il peut rendre querelleur. Et c'est l'élément suivant. Il ne doit pas être buveur, mais il ne doit pas être querelleur non plus. Son autorité du responsable, elle doit s'imposer d'elle-même. Elle ne s'impose pas par la force. Elle ne s'impose pas par la peur. Elle ne s'impose pas par... Non, j'ai dit et c'est comme ça et c'est tout. L'autorité, c'était quand j'ai fait mon stage pastoral, c'est ce qu'on m'a appris. L'autorité, elle se fait par l'enseignement. Elle se fait par la qualité de ce qu'on apporte, par la légitimité. C'est comme ça qu'on reconnaît à lui quand il parle. Il dit des choses sages, c'est bien, donc je l'écoute. C'est de ça que l'autorité, elle découle. Elle ne découle pas de quelqu'un qui parle bien, qui a un grand charisme, et donc on l'écoute juste parce qu'il a de la prestance. Ça, malheureusement, ça conduit beaucoup d'églises dans l'erreur, parce que des gens qui parlent très très bien, il y en a beaucoup chez les faux docteurs. Ils ont beaucoup de charisme. Ils savent comment vous dire « Donne de l'argent !» Comme ça, tu seras encore plus béni. Ça, ils le font très très bien, ça. Mais ce n'est pas à ça qu'on donne l'autorité. Quelqu'un comme ça, moi, je ne l'écoute pas. Querelleur. Un ancien qui se mêlerait à une rixe aurait vite fait de discréditer l'église locale. Ah, lui, il va dans telle église et en plus, c'est un responsable. Je l'ai vu se battre à la sortie du bar, là. Ça la fout mal, hein. Mais la violence peut aussi se manifester en parole. On peut faire de gros dégâts avec notre langue. Et d'ailleurs, Jacques, dans son épître, met en garde à ce sujet. Vous savez, la langue est comme un petit gouvernail, etc., etc. Cinquièmement, le surveillant ne doit pas être avide de gains honteux. Ah, c'est marrant ça. C'est incroyable. La Bible mettait déjà en garde contre ceux qui cherchent à s'enrichir sur le dos de l'Église. Les fameux théologiens de la prospérité. Je trouve ça fou que ça marche encore. Et pourtant, il ne se passe pas une semaine sans que je voie une vidéo d'un de ces types-là. Ici, il s'agit de la honte rattachée à un gain recherché à travers un service pour le Seigneur. Je sers le Seigneur, oui, mais j'ai un objectif caché derrière, faire de l'argent. Et ça, il y a beaucoup de gens comme ça. L'ancien, il doit porter son attention sur les personnes et non à l'argent ou à un gain quelconque. C'est pas ça qui doit l'animer, c'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce qu'un responsable doit être? Et c'est mon point suivant. Qu'est-ce qu'un responsable doit être maintenant qu'on a vu ce qu'il ne doit pas être? On revient un petit peu en arrière, on revient au verset 6. Ces versets, ils détaillent les caractères de l'ancien selon Dieu. Et ça, on va voir que ça a une importance. Il doit faire preuve de maturité spirituelle et de capacité réelle dans la conduite collective. Je leur dis, il doit faire preuve de maturité spirituelle et de capacité réelle dans la conduite collective. Alors, il y a deux listes qui sont très connues. Il y a celle de Tite, ici, qu'on étudie. Il y en a une autre dans 1 Timothée 3, qu'on ne va pas lire là, mais vous le ferez si vous en avez envie. Et ces deux listes, elles donnent ensemble 22 qualifications nécessaires à un surveillant, qu'on peut classer en 4 catégories. Le caractère personnel, le témoignage public, ce que la personne renvoie, sa famille, la gestion de sa famille, ça peut paraître secondaire, mais on va voir que ça a une importance. Et enfin, le ministère. Ce sont des qualifications qu'on retrouve dans sa vie personnelle et familiale, mais aussi dans l'Assemblée. Donc en fait, c'est ça qu'il nous faut regarder, ce qu'on va regarder. Le premier d'entre eux, pareil dans 1 Timothée 3, c'est irréprochable. Ouf. La barre, elle est... Jonathan qui... Ouais, c'est chaud, hein. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au-dessus de tout reproche, aussi bien en ce qui concerne la doctrine que la morale. C'est le premier caractère qui est cité dans Tite, mais aussi dans son parallèle de 1 Timothée 3. Ce critère si élevé, il s'explique par le rôle tenu. Les surveillants sont les intendants de la maison de Dieu, c'est-à-dire qu'ils rendent compte avant tout à Dieu lui-même. On croit souvent que les anciens doivent rendre compte à l'Église. Ce n'est pas vrai, hein ? C'est à Dieu qu'ils rendent compte. Et vous le savez, le Seigneur est un patron particulièrement exigeant. Soyez saints, car je suis saint, dit le Seigneur. Et 1 Pierre le reprend dans son épître, ce qui montre bien que ça s'adresse à l'Église. D'ailleurs, pas uniquement qu'aux anciens. Hein. Soyez saints, car je suis saint. C'est un caractère essentiel, de manière à pouvoir reprendre d'autres personnes. Car si on n'est pas irréprochable et qu'on veut reprendre quelqu'un dans l'Église qui agit mal, la personne, elle va dire quoi? Ah, tu me dis, mais toi. Mais toi, il y a des choses aussi, on a des choses à te dire. Ah, c'est plus difficile. Pour ça que ce caractère ressort en premier. Pour autant, comprenons-le bien. Est-ce qu'il signifie que les responsables doivent être parfaits, sans péché? Là, on commencera à aller dans quelque chose qui relève du mensonge. Car nous sommes tous des êtres faillibles, à bien des égards. Mais l'irréprochabilité, elle ne se voit pas là, dans le fait, quelquefois, de faire des erreurs. C'est un fait, ça arrive. Elle se voit autrement. Car s'il arrive de mal agir, le responsable met la chose en ordre en la confessant à Dieu, en demandant pardon aux personnes qui ont été lésées et en restituant s'il le faut le cas échéant. C'est là qu'on voit l'attitude de quelqu'un qui n'est pas parfait, mais qui travaille pour être irréprochable. Il met les choses en ordre devant Dieu et devant les hommes s'il y a besoin. En fait, c'est l'attitude qui compte. C'est une attitude, encore une fois, qui est empreinte d'humilité, mais aussi de discipline personnelle. Deuxième élément qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est qu'il soit un mari fidèle à sa femme. Ou alors, dans vos traductions, on pouvait avoir « mari d'une seule femme ». Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça a été compris de bien des manières. Certains, notamment catholiques, ont dit qu'il s'agissait là du mariage avec l'Église. Vous savez, ça leur sert d'argument pour dire que le prêtre doit rester célibataire. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, il est déjà marié. Il est marié avec l'Église. Mari fidèle à sa femme, que l'ancien soit fidèle à l'Église. C'est comme ça qu'ils le conduisent. Il faut dire que c'est une compréhension, une interprétation qui n'est pas majoritaire dans l'Église catholique, mais je la sors quand même. D'autres ont compris Marie fidèle à sa femme comme voulant un texte contre la polygamie, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir plusieurs femmes. D'autres ont compris ça, que ça voulait dire que l'ancien doit être obligatoirement marié, autrement dit, ça ferme la porte à ceux qui sont célibataires. D'autres ont compris que ça voulait dire qu'il ne doit avoir été marié qu'une seule fois. Autrement dit, s'il a été divorcé, ben, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est une autre compréhension, qu'il ne doit pas avoir été divorcé ou remarié. Et enfin, la dernière, qu'il doit être un époux fidèle envers sa femme. Et c'est cette dernière proposition qui est la plus cohérente. Le surveillant doit être loyal envers elle, donc on parle de sa femme, hein, et envers elle seule, entièrement fidèle. Alors on peut s'étonner de voir cette caractéristique ressortir, mais je vous rappelle qu'il y a même pas un an, il y avait deux scandales en Île-de-France à ce sujet. Guillaume Bourin et il y a eu Mathieu Koumarianos. L'ancien doit être un homme fidèle à sa femme. C'est une formule, c'est intéressant, que l'on retrouvait en épitaphe chez les Juifs et chez les païens. Machin, mort à telle date, mari fidèle à sa femme. On le retrouvait sur les épitaphes. En fait, c'est une formule qualitative. L'ancien doit être fidèle à son épouse et lui donner tout l'amour et la considération qu'une femme mérite. Alors, je ne la regarde pas volontairement, mais je vois direct les yeux de ma femme. Lui donner tout l'amour et la considération qu'une femme mérite. Ça représente bien plus que le simple fait de ne pas divorcer d'avec elle. Hein. En fait, il y a là un parallèle qui s'ouvre entre la gestion de la famille personnelle et la gestion de la famille de Dieu. Il y a un parallèle qui se fait. Fidélité envers l'épouse, fidélité aussi en découle envers l'Église. Si quelqu'un est capable de montrer une fidélité, alors on peut lui faire confiance. C'est ça que ça veut dire. Je prends ici un exemple. Quand j'ai fait mes études de théologie à l'Institut biblique de Nogent, j'ai eu l'occasion de fréquenter d'autres étudiants qui venaient de pays étrangers, parfois lointains. Et j'étais assez surpris d'apprendre que ces hommes-là étaient des hommes mariés, qui avaient des enfants parfois même en bas âge, et qu'ils étaient partis pour venir se former pour le ministère, parfois même plusieurs années d'affilée, sans rentrer à la maison. Et j'ai eu l'occasion de voir des chrétiens glorifier ça. Oh, quel serviteur incroyable ! Il a le sens du sacrifice. Vraiment, il se sacrifie pour l'œuvre du Seigneur, pour l'Église. Quel serviteur incroyable ! Moi, ça m'a choqué comme réaction. Qu'en pense son épouse qui est restée toute seule pendant plusieurs années à élever les enfants ? Qu'en pensent ses enfants ? Qu'il n'a pas vu grandir pendant plusieurs années. Qu'en pensent aussi les hommes qui venaient du coup draguer madame puisque monsieur était parti? Histoire vraie, hein? Et ces hommes-là prétendent à devenir responsables d'église. Moi, je crois qu'ils ont failli à cette demande-là. Fidélité. En fait, tu as préféré la fidélité à l'église plutôt que la fidélité à ta femme. C'est marrant parce qu'on croit que c'est une bonne chose, servir l'Église et tout, on met ça en avant. Mais il y a une erreur dans les priorités là, qui n'est pas bonne. montre d'abord que tu es fidèle à ton épouse, et après tu pourras peut-être prétendre à devenir un responsable d'église. Finalement, ces personnes-là, eh ben, elles ne sont jamais rentrées dans le ministère, pour ces raisons-là notamment, mais pour d'autres raisons. C'est triste. Je pense que ça a créé plein de soucis. J'ai en tête notamment quelqu'un qui n'a pas vu naître sa fille, parce qu'il est parti avant l'accouchement et qu'il est rentré 3 ans plus tard. Je ferme cette parenthèse. Un professeur très réputé dans le monde évangélique me disait « Prends garde à ce que l'Église ne prenne pas la place de ta femme. » La femme, l'Église, pardon, peut vite devenir l'amante du pasteur. Il faut prendre garde à ça. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui arrêtent le ministère à cause de ça, parce qu'il y a une vraie souffrance qui s'installe dans le couple et qu'il faut faire un choix. C'est l'Église ou c'est Madame. C'est dur, hein ? Parce que l'équilibre, il n'est pas bien mesuré. Il n'est pas bien géré. Troisièmement, on reste dans le cadre de la famille, que ses enfants soient dignes de confiance. Alors celui-là aussi, il interroge. Tout d'abord, le texte ne dit pas que le responsable est forcé d'avoir des enfants. On soit clair, hein. Mais que s'il en a, qu'il soit fidèle. En grec, c'est pista. Dans le sens de soumis et obéissant à leurs parents. Ici, l'idée n'est pas de donner un pouvoir à l'enfant qu'il n'a pas. Pourquoi je dis ça ? Parce que un ado qui est en pleine crise d'ado et qui veut s'en prendre à son parent qui est responsable de l'église et qui a connaissance de ça, il peut essayer de faire jouer « T'as vu, j'obéis pas à mon père. » Peut-être qu'il n'est pas digne de... On ne donne pas à quelqu'un qui n'est pas encore chrétien un pouvoir dans l'église qu'il n'a pas à avoir. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce texte-là. L'idée est d'exprimer que le surveillant s'évalue sur la base du contrôle qu'il exerce sur ses enfants et sur leur conduite. La raison de cette condition est donnée dans le texte parallèle de 1 Timothée 3. La manière dont un homme a su diriger sa propre famille est un indice de la manière dont il saura diriger l'Église. Eh oui. S'il a su trouver, ça je l'ai vu aussi dans un commentaire, la voie dorée, la meilleure voie possible entre permissivité, le laxisme d'un côté, et sévérité excessive de l'autre, un entre-deux équilibré, et garder ses enfants dans la soumission, c'est une preuve de sa sagesse dans les relations avec les autres. Un père, comprenons bien, ne peut pas décider du salut de ses enfants. Ce n'est pas ça dont il est question. Mais il peut aplanir le chemin du Seigneur en inculquant à ses enfants la parole de Dieu, en exerçant la discipline dans l'amour et en évitant toute hypocrisie ou inconstance dans sa propre vie. Un jour, un responsable d'église me disait « C'est dur, hein, mes enfants, ils regardent tout ce que je fais. Hein. Et dès qu'il y a un truc que je ne fais pas bien, c'est les premiers à me le dire. « Ah papa, tu nous dis de faire ça, mais toi... Dur, hein ? C'est dur d'être parent. Hein ? Mais on a un exemple dans la Bible de ça. Vous vous souvenez, Élie, pas le prophète, hein, le prêtre, dans 1 Samuel, et ses fils qui font n'importe quoi. Alors, un commentateur ajoutait une question supplémentaire, qui est légitime. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand un parent est responsable de ses enfants ? Jusqu'à quand on évalue ça ? Est-ce qu'un parent d'un enfant qui a plus de 40 ans, ça compte encore ou ça compte plus, ce qu'on est en train de dire là ? Towner, un théologien, répond que c'est tant qu'ils sont encore dans le foyer familial. Pourquoi ? Car c'est le cadre de la dépendance. Une fois qu'ils sont partis, ils ont pris leur indépendance, ils ne sont plus dépendants de vous. Bon, en général, ils peuvent être encore dépendants s'ils sont étudiants, sur le plan financier, etc. Mais ils sont partis, ils ont quitté le foyer familial. Autrement dit, les anciens ne peuvent pas être tenus pour responsables de la direction que leurs enfants devenus grands peuvent choisir de prendre. Eh oui. Eh oui. Je prends un exemple pour être un peu concret. Alors, on ne se connaît pas encore assez dans l'Église, donc n'imaginez pas que je vise des personnes en particulier. Je vise personne là. Mais j'ai toujours été très étonné de voir des parents d'ados, souvent jeunes, venir me dire « Ah, mon fils ou ma fille n'est pas venu ce matin à l'église bah, parce qu'il n'avait pas envie de venir. C'est lui qui décide maintenant, il a 13 ans, c'est lui qui décide s'il veut venir ou pas. » Et puis un peu plus tard, dans quelques années, c'est les mêmes parents qui viendront dire « Mais on ne comprend pas, notre enfant, il ne s'intéresse pas à l'église. » Peut-être tu aurais dû le pousser à venir. Peut-être qu'à 13 ans, il n'a pas à décider s'il vient ou pas. Peut-être que tant qu'il vit sous ton toit, il vient à l'église le dimanche matin, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Car sinon, comment il va entendre la parole de Dieu ? Comment il va découvrir l'évangile, le salut qui sauve ? J'imagine que pour les parents, c'est important de savoir que son fils ou sa fille va rencontrer le Seigneur et être sauvé. Ou peut-être que ça ne l'est pas. Pour moi, un père qui agirait ainsi ne pourrait pas prétendre à cette tâche de responsable dans l'Église. Car le service chrétien, il commence à la maison. Il ne commence pas dès qu'on arrive à l'Église. Le service chrétien, il commence à la maison. C'est pour ça qu'il y a un lien fort entre la maison et l'Église. Quatrième, le responsable d'Église doit être hospitalier, c'est-à-dire prêt à accueillir et accueillant. Sa maison doit être un lieu de rencontre fraternelle où chaque hôte est bien reçu. Alors je sais, je l'ai appris, qu'en Île-de-France, c'est un peu difficile à faire ça. Pourquoi ? Parce que souvent, on n'a pas tous des gros revenus. Donc, qui dit pas gros revenus, dit petit logement. Donc, c'est difficile d'accueillir dans 35 mètres carrés. Bon, nous, on l'a fait, mais c'était chaud. ou alors, parfois, on n'habite pas très loin en termes de kilomètres vol d'oiseaux, mais en temps de trajet, on habite loin. Parfois, pour aller chez quelqu'un, on met une heure et demie. Parce qu'il y a les bouchons, il y a les... Et donc, ce n'est pas facile d'inviter en Île-de-France. C'est vrai que c'est plus facile en province. Mais pour autant, voilà ce vers quoi on doit suivre. Pourquoi ? Parce que l'hospitalité, c'est un moyen de travailler à la communion fraternelle. Eh oui, c'est comme ça qu'on y travaille. Je souligne que Pierre, dans sa première épître, dit aussi de ça de tous les chrétiens, qui doivent tous être hospitaliers et accueillants. Cinquième, ami du bien. Ça va plus loin que haïr le mal, hein. C'est se concentrer sur ce qui est bon, bienfaisant, en révélant ainsi sa séparation avec tout ce qui est ambigu, tout ce qui est équivoque, tout ce qui est faux. Ami du bien. J'accélère un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup. Réfléchis. Dans vos traductions, vous pouvez avoir modéré, sage, sensé. Le surveillant mesure ses actes et ses opinions. Il prend le temps, il réfléchit, il pèse le pour, le contre, et il mesure la réponse qu'il va donner. Il mesure aussi les paroles qu'il dit en prédication. J'essaye, ce n'est pas toujours facile. J'essaye de peser tout ça. Septièmement, il est juste. Alors, c'est-à-dire plein de droiture devant Dieu et devant les hommes. Un jour, un frère m'a dit, un bon responsable, c'est quelqu'un qui n'a pas à rougir de son travail devant Dieu. Et je crois que c'est ça qu'il faut rechercher. Il est intègre, il pratique ce qu'il enseigne et il reçoit l'approbation de Dieu. Mais c'est aussi quelqu'un qui s'est tranché, non selon la justice des hommes, mais selon celle de Dieu qui est consignée dans l'Écriture, avec l'exemple de Christ lui-même, celui qu'il nous a montré. Huitièmement, qu'il soit saint ou pieux, dans d'autres traductions. Le terme grec évoque l'homme qui se préserve avec soin de toute souillure aux yeux de Dieu. Pourquoi ? Parce que ça caractérise sa relation qu'il a avec le Seigneur. Neuvièmement, qu'il soit maître de lui-même. Ouh, c'est exigeant, hein ? C'est-à-dire qu'il sait réprimer les passions afin d'obéir à Christ. C'est par l'Esprit qu'il en est capable, car je vous le rappelle, la maîtrise de soi, c'est un don de l'Esprit. Galates 5. Mais il doit coopérer activement à ce fruit. Il ne s'agit pas juste de dire « Ah, c'est un fruit de l'esprit, donc j'attends que ça se passe. » Et puis, non, c'est un fruit de l'esprit, certes, mais on coopère à l'action du fruit de l'esprit. Souveraineté de Dieu, responsabilité humaine. Dixièmement, fidèlement attaché à la parole certaine. C'est la saine doctrine. C'est l'enseignement correct, conforme à celui des apôtres. L'ancien doit avoir une foi saine et s'en tenir sans broncher aux saintes écritures enseignées par le Seigneur et ses apôtres. C'est alors seulement qu'il sera capable de donner aux saints une nourriture spirituelle équilibrée et réduire au silence ceux qui parlent contre la vérité. C'est important que l'ancien se nourrisse de la saine doctrine pour pouvoir l'annoncer et protéger l'Église. On va voir un peu plus tard dans le texte que c'est une mission essentielle des anciens. Cette capacité manifeste plutôt un équilibre entre l'enseignement qui fortifie, l'enseignement qui encourage, et de l'autre, les réfutations nécessaires des contradicteurs, qui sont, je le répète, nombreux en Crète. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui vont ça et là pour prendre de l'argent et raconter n'importe quoi. Et donc là, il faut des gens qui soient forts et vraiment solides dans la saine doctrine parce qu'il va y avoir des combats. C'est toujours valable aujourd'hui. Hein. Sur Internet, souvent, j'ai plein de gens qui me disent « j'écoute des prédications sur Internet ». C'est bien, mais sur Internet, il y a à boire et à manger. Il y a du très bon, comme il y a du vraiment très mauvais. Je conclus. Comprenez, vu le temps que ça prend, qu'on ne pouvait pas faire ça en une seule prédication. Là. C'est pour ça que j'étais obligé de couper. Toutes ces qualités ne sont pas pour l'avantage personnel du surveillant, mais bien pour le bien de ceux qui l'entourent et la seule gloire de son maître. Seule gloire pour Dieu, pas pour les responsables. Des églises ont été fondées en Crète, mais elles sont complètement inorganisées et laissées à des enseignants aux intérêts douteux. L'apôtre Paul missionne Tite, son fils dans la foi, celui qui a été formé à ses côtés et qui a montré les qualités d'un serviteur de Dieu investi pour le royaume, pour établir des anciens. Pour ce faire, Paul donne à Tite les exigences à remplir. Et on constate quelque chose d'intéressant, c'est qu'elles ne correspondent pas toujours à ce que l'on voit dans notre pratique moderne. Les anciens ne sont pas choisis pour leurs aptitudes physiques. Ils ne sont pas choisis pour leurs acquisitions culturelles. Ils ne sont pas choisis non plus pour leur position sociale. Ou ils ne sont encore pas choisis pour leur sens des affaires. En fait, c'est faussement que l'on suggère parfois que les mêmes compétences qui ont fait réussir un homme sur le plan professionnel, un chef d'entreprise, un bon entrepreneur, le qualifient aussi pour une fonction de leader dans l'Église. Et c'est souvent ce qu'on voit. Ouh, lui, c'est un bon gérant, à mon avis, ça va faire un bon ancien. Il n'y a aucune de ces qualités qui est demandée dans Tite. Aucune. En fait, alors il y a d'autres, hein, mais un éboueur ou un mécanicien sur une chaîne de montage pourrait être un ancien qualifié s'il remplit les caractéristiques que nous avons vues ensemble. Et oui, le Seigneur, l'Église, ne fonctionne pas comme le monde fonctionne. Et ça, c'est aussi à considérer. Car souvent, on veut intégrer un fonctionnement du monde qui peut être bien à l'Église. Et finalement, de transformer l'Église dans une forme d'entreprise, un peu. Mais il n'y a rien de tout ça dans l'Écriture. Rien de tout ça dans l'Écriture. Même si la mission que Paul confie à Tite n'indique pas un mode de fonctionnement pour les assemblées, c'est un fait, c'est pas normatif, je crois qu'il nous fait quand même réfléchir sur notre méthode. C'est intéressant parce que ce ne sont pas les églises qui nomment leurs anciens. C'est Tite qui le fait. Sur la base des critères que l'apôtre lui donne. Il n'y a pas non plus d'anciens qui s'autoproclament eux-mêmes anciens. Ce qu'on trouve malheureusement beaucoup. Ils ne sont pas non plus élus pour un mandat. Par contre, ils sont reconnus par l'assemblée locale pour servir en son sein. En fait, le fonctionnement associatif français a beaucoup influencé la manière dont nous nommons et reconnaissons les responsables dans l'Église en France. Et on peut tomber dans quelque chose qui s'apparente aujourd'hui à de la politique. Une campagne un peu cachée de quelqu'un qui veut être élu en assemblée générale, pour un mandat d'une certaine durée. Eh oui. Un candidat est présenté et l'Assemblée générale vote pour un mandat. Ce qui est intéressant, c'est que le caractère décrit dans le texte que nous avons médité aujourd'hui constitue une exigence, non pas d'autres frères qui cherchent à relever chez un ancien la moindre défaillance. Ah, d'ailleurs, honnêtement, je pense qu'on trouverait facilement, car il y a des choses à dire chez tout le monde, moi y compris. Mais c'est une exigence pour celui qui aspire à ce rôle de surveillant. Comprenez la différence ? Ce n'est pas l'Église qui est là, vas-y, remplis les conditions, et puis si tu te rates, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est celui qui aspire au rôle, qui doit rechercher tout ça. Et ça, c'est un vrai défi. Attention à l'intention que l'on peut avoir, tant en tant que membre de l'Église qu'en tant qu'ancien. Notre cœur doit être pur devant le Seigneur. Vous savez, on ne peut rien lui cacher. Lui, il sonde l'intérieur. Il sait tout. Alors, sur la base de ce que je viens de lire, voici comment je qualifie la mission des anciens surveillants. C'est la même chose. Faire en sorte que l'Église reste organisée, que ça ne devienne pas le bazar et que chacun en fasse qu'à sa tête, comme on trouve parfois. Que l'Église soit unie dans le Seigneur par une foi commune. La communion fraternelle est une doctrine commune. On croit tous la même chose. Du coup, vu qu'on croit tous la même chose, on va tous dans la même direction. On œuvre tous pour le même royaume de Dieu. Et nourri, c'est la partie enseignement, de la saine doctrine. Pas de choses extérieures que l'on trouve qui sont super, des belles pensées, etc. Non, que la saine doctrine. C'est elle qui nous cadre. La saine doctrine, c'est quoi ? C'est des choses que l'on croit, mais qu'on doit parfois expliquer. Vous croyez tous que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est de la doctrine. Vous croyez tous en la Trinité ? C'est de la doctrine. Vous croyez tous au salut par la grâce seule ? C'est de la doctrine. Tout ce que l'on croit, c'est de la doctrine. Mais comment on y croit ? Et est-ce qu'on sait le défendre ? Ça, c'est le rôle des anciens. Aussi pour protéger le troupeau de loups qui viennent dire n'importe quoi, et si l'Église n'est pas assez solide, pas assez ancrée dans la doctrine, c'est la porte ouverte à plein de dérives. Enfin, dernier élément, mais non des moindres, qui n'est pas dit dans le texte, mais que je souligne, qui est très importante. La soumission aux anciens est une ordonnance biblique. La soumission aux anciens est une ordonnance biblique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont revêtus de l'autorité divine. C'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui place. Ça ne veut pas dire que ce sont des êtres parfaits, ça veut dire qu'ils ont une responsabilité devant le Seigneur. Et s'ils ne sont pas respectés et qu'on ne les écoute pas, eh ben du coup, il n'y a plus d'organisation dans l'Église. Et ça devient la foire. C'est pour ça que je conclue dessus. Ah, je ne l'ai pas mis, mince. J'en fais la lecture. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, c'est 1 Pierre 5. 1 Pierre 5, versets 1 à 7. C'est pour cela que j'adresse quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances de Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Faites-le non comme si vous y étiez contraint, mais par dévouement, comme Dieu le désire, non pas pour de honteuses raisons financières, mais de plein gré. Et n'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les modèles du troupeau. Alors, quand le berger en chef, c'est Jésus-Christ, paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment fixé par lui et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Amen.